9h19 minutes, notre invité nous présente son 10e livre, toujours autour du thème de l'anxiété. Et souvent, les gens ont de la difficulté à utiliser les bons mots. On parlait de quelqu'un qui fait un burn-out, quelqu'un qui est déprimé, qui est anxieux, qui est bon. Et son livre a pour titre « L'anxiété, le cancer de l'âme ». Louise Reed est avec nous. Bonjour, Madame Reed.
Bonjour, Monsieur Arcan.
C'est votre 10e livre. Vous parlez abondamment du thème de l'anxiété. Et juste avant de parler de ce livre en particulier, vous avez écrit un livre contre un peu la psychologie traditionnelle, sur les approches classiques en psychologie. Vous avez étudié en psychologie. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait, pour le bénéfice de nos auditeurs, que vous contestez les méthodes auxquelles, finalement, ils sont confrontés quand ils rencontrent un psychologue patenté, comme on dit?
OK. D'abord, ce qui m'a décidé à essayer de trouver quelque chose de différent, c'est d'avoir moi-même vécu pendant les 40 premières années de ma vie, anxiété, dépression, trouble panique et tous ces problèmes-là, et d'avoir fait beaucoup de thérapie. Avec des approches traditionnelles, c'est-à-dire des thérapies hebdomadaires avec un psychologue, avec un psychiatre, et ce, pendant des années. Et puis finalement, pour après, 7 ans et demi de thérapie presque consécutive, de décider que je me suicidais parce que la vie était trop difficile. Puis là, je me suis dit, ça se peut pas d'avoir tant travaillé, puis d'avoir... Mais pendant ces 7 ans-là, tout ce que je faisais, dans le fond, j'avançais pas. Je cherchais. Avec la psychologie traditionnelle, je cherchais quelles pouvaient bien être les causes de tout ça, puis pourquoi ça fonctionnait pas, puis qu'est-ce que j'avais donc pu vivre, puis finalement ça donnait absolument rien. Puis ce que je dis souvent, c'est que quand je suis allée consulter, j'avais 24 ans, et ce que je voulais, j'avais des jeunes enfants, je savais plus trop où je m'en allais, j'étais plus sûre d'avoir envie de vivre vraiment. J'avais un peu peur de la vie, puis ce que j'aurais voulu, c'est qu'on m'aide à pouvoir faire des pas d'avant. Puis, avec la psychologie traditionnelle, ce que j'ai fait beaucoup de pas d'arrière pour essayer de comprendre, mais finalement, pour pas réussir à en sortir.
Là, vous me corrigerez si je me trompe, mais en lisant votre livre, puis en regardant un peu ce que vous avez écrit auparavant, c'est comme si vous disiez, pour la psychologie traditionnelle, là, c'est d'aller voir dans le passé ce qui a pas marché pour expliquer pourquoi ça marche pas. Puis vous, vous dites, non, moi, je prends la personne maintenant, là où elle est rendue, et j'essaie de l'amener ailleurs. Est-ce que c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'on parle de maintenant, mais c'est des choses qui viennent du passé. Je suis très consciente que c'est des problèmes qui viennent du passé, mais ça donne rien de les ressasser. Ce que j'ai voulu faire, c'était de trouver des pistes directes, les pistes les plus profondes, celles qui, dans le fond, probablement, dans le fond, tout ça engendre l'anxiété.
OK, mais là, vous parlez, vous, de chirurgie, de psychologie chirurgicale.
Oui.
Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence?
C'est-à-dire qu'au lieu de... C'est un peu comme la médecine généraliste. On va aller, si on a un problème de mal de ventre, on va essayer de trouver des différents médicaments ou différentes choses pour régler le problème de mal de ventre. Alors que en chirurgie, si on s'aperçoit qu'il y a un problème avec l'appendice, ben, je veux dire, on va aller opérer l'appendice. OK, pour redonner à la personne la capacité de fonctionner le plus rapidement possible. Alors, c'est pour ça que moi, je dis que c'est de la psychologie chirurgicale, parce que on va aller directement dans l'inconscient. Moi, ça fait 20 ans que je travaille à cibler les sources de l'anxiété. On va aller directement dans l'inconscient pour trouver, pour rencontrer cette source-là. C'est des programmations, là, habituellement, c'est des mauvaises programmations qu'on a depuis toujours. Puis, on va travailler à déprogrammer souvent des fausses croyances. Puis après ça, je veux dire, c'est que le cerveau, lui, il fait sa job. Donc à partir du moment où on déprogramme la fausse croyance, où on redonne des croyances plus réalistes, OK, le cerveau, lui, à ce moment-là, il va nous redonner un fonctionnement beaucoup plus normal.
C'est-à-dire... Donnez-moi un exemple de fausse croyance, là, disons, que vous voyez souvent chez les gens qui vont vous consulter.
Parmi les fausses croyances que moi j'appelle innées, mm-hmm. OK, c'est que tous les enfants viennent au monde avec une croyance qui dit qu'ils sont capables de tout faire et de tout réussir, parce que l'enfant n'a pas de notion de limite. Alors, à ce moment-là, normalement, cette croyance-là se résorbe vers l'âge de 6, 7, 8 ans, 10 ans avec l'apparition de la logique, mais la plupart du temps, elle ne se résorbe pas. OK? C'est-à-dire qu'on le sait avec notre tête qu'on n'est pas capable de tout faire et de tout réussir, mais on demeure persuadé dans le fond de nous-mêmes qu'on devrait être capable de tout faire et de tout réussir. Et ça, c'est la base de tous les perfectionnistes. C'est un problème de base chez tous les perfectionnistes. OK? Mais donc, cette croyance-là qui est « je devrais être capable de tout faire et tout réussir » ou « je suis capable de tout faire et tout réussir » va être présente chez tous les perfectionnistes, mais en même temps, elle va être présente chez la plupart des décrocheurs.
OK, des gens qui sont hantés par cette idée-là puis qui se rendent compte que quoi, ils sont pas capables de le faire.
Ils seront pas capables de le faire. Tant qu'à pas être capable, je fais plus rien. Alors, c'est sûr que si on se dit on va travailler avec ces deux personnes-là, on va travailler de façon différente parce qu'il y en a un qui est perfectionniste puis l'autre veut plus rien savoir. C'est pas vrai. En tout cas, avec la psychologie chirurgicale, on va aller travailler directement sur la même croyance qui dit que je devrais être capable de tout faire et de tout réussir. Et à ce moment-là, je veux dire, c'est que ça va, on règle le problème fondamental dans les deux problématiques, la source fondamentale dans les deux problématiques.
Il y en a combien de croyances comme ça? Trois, vous avez dit trois, je pense.
Des croyances innées là, avec lesquelles les enfants viennent au monde, il y en a peut-être plus que trois. Moi, j'en ai identifié trois. Il y a celle du perfectionnisme, il y a la solitude égale le vide. C'est une croyance qui va égale le vide égale la mort, finalement, entre guillemets. Et ça, c'est une croyance qui va entraîner toute la dépendance affective, tous les problèmes de dépendance affective, l'impression qu'on peut pas s'organiser seul ou survivre seul. Et il y a une autre croyance qui dit que la vie égale plaisir. Tous les enfants sont persuadés que la vie est supposée d'être plaisir, un jeune enfant. Et ça fait que, et très souvent, quand elle ne se résorbe pas avec l'apparition de la logique, que ça fait des gens qui sont frustrés, qui se frustrent très facilement. Des gens qui n'acceptent pas les refus, qui n'acceptent pas les désagréments. OK, mais c'est juste qu'ils ont gardé cette programmation-là, mais qui est plus forte que leur logique.
Notre invitée ce matin est Louise Reed, donc, qui nous parle de son livre « L'anxiété, le cancer de l'âme ». Quand on rencontre quelqu'un qui est anxieux, là, là on se dit, mais pourquoi ça l'énerve? Pourquoi? Quelqu'un qui fait une crise de panique, là, j'ai vu ça. Là, tu comprends pas pourquoi tu dis qu'il se passe rien, il n'est pas... Logiquement, il n'y a rien qui explique pourquoi cette personne-là, il se passe quoi? Qu'est-ce qui fait que ça déclenche? T'es au restaurant puis il a besoin de sortir, prendre l'air parce que là, il n'est pas capable de poursuivre.
C'est ça. Ben, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu, les crises de panique. Ça m'a aidé à comprendre, mettons, le processus puis de m'apercevoir que c'est vraiment relié à une sensation de vide. Et au moment où la personne va faire une crise de panique dans un restaurant alors qu'il n'y a pas de raison, finalement, de paniquer ou de d'être très angoissé ou très inquiet, c'est simplement que, tout à coup, elle a eu cette sensation de vide-là, okay, qui est comme apparue et son cerveau a réagi. Puis, à ce moment-là, son cerveau, en réagissant, lui, il se met en situation d'urgence. Il envoie un ordre aux glandes surrénales de produire un surplus d'adrénaline. Quand le surplus d'adrénaline se produit, le cœur se met à débattre, la personne devient étourdie. Elle comprend absolument pas ce qui lui arrive en plein restaurant, sans raison. Mais son cerveau a tout simplement réagi à une sensation de vide.
Mais qui arrive comment?
Ça peut être... sensation de vide. Puis, sensation de vide, c'est souvent comme l'appréhension d'une mort, de la mort, où ça va être comme, c'est bien plate ici. Tu sais, tout à coup, la personne a dit, ah, que c'est plate. Ou est en train de penser, par exemple, ah, tantôt, je m'en vais chez nous, puis je vais être seule, puis c'est du plate. C'est ça, le vide. Tu sais, je veux dire, c'est c'est pas un vide concret.
Non.
Mais c'est un vide abstrait. Mais le cerveau fait pas la différence.
Est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui anticipent toujours quelque chose qui va arriver de négatif? C'est-à-dire que, vous le dites, bon, je rentre à la maison, je vais être seul, c'est plate.
Mais c'est-à-dire
je m'en vais au travail, le patron m'énerve, ça va être épouvantable. Des gens qui anticipent toujours puis qui deviennent anxieux avec ça aussi.
Ou ils sont déjà anxieux.
De nature.
De nature, ou justement, je veux dire, ils ont cette espèce de... Tout à l'heure, je parlais des croyances de base. Ben, la croyance perfectionniste va souvent engendrer une peur du rejet. OK? Fait que la personne s'en va au travail, puis là, mon Dieu, s'il faut que mon patron soit pas d'accord, puis s'il faut qu'il m'aime plus, puis s'il faut qu'il me mette dehors, puis c'est sûr que la personne, à ce moment-là, elle tombe dans des scénarios de l'anticipation négative. OK? Mais c'est comme plus fort qu'elle. Ce sentiment de vide-là apparaît sans même qu'elle réalise là qui se produit. Puis moi, à cause de ce que j'avais vécu justement pendant toutes ces années-là, ça fait 20 ans de recherche là que je fais à ce niveau-là, de recherche, pas juste intellectuelle, là, de recherche
de terrain,
aussi, de terrain, c'est ça. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut absolument déprogrammer cette sensation de vide-là ou cette peur là, du vide dans le cerveau. OK, puis ça se fait à travers une technique justement que j'ai mis au point là au fil des années.
Parce que ce que vous dites, dans le fond, c'est que l'anxiété, c'est un peu sournois. C'est-à-dire que ça gruge la personne à l'intérieur.
Mais c'est un peu pour ça que j'ai dit que c'est pour ça que moi, j'ai fait un parallèle avec les cancers, finalement. Le cancer physique, ça, l'anxiété, c'est un cancer de la pensée. Et ça nous gruge de l'intérieur, ça nous brûle à petit feu aussi. C'est pour ça que j'ai fait comme un parallèle avec le cancer, en disant le cancer de l'âme ou le cancer de la pensée. Ça nous gruge de l'intérieur. Ça nous amène à des pensées négatives. Ça nous amène très souvent à une mauvaise perception de soi-même. T'sais, une mésestime de soi. On se trouve plus bon, on se trouve la personne perfectionniste. De toute façon, on le sait que si elle atteint pas le 9, le 9.5 ou le 10 sur 10, elle va se considérer très souvent comme nulle.
Mais là, est-ce que c'est moi qui rêve, là, où on dirait que les gens sont plus anxieux qu'avant face à un paquet de situations, que ce soit personnelles, familiales, économiques, professionnelles? C'est comme, il y a toujours une anxiété de rattacher à ça, même si quand tu regardes objectivement, là, de l'extérieur, froidement, tu dis, ben, il n'y a pas de raison apparente, en tout cas.
Mm-hmm. Mais c'est ça nous ramène toujours à la troisième fameuse croyance de l'enfance, que je devrais être capable de tout faire et de tout réussir, que moi, à un moment donné, j'ai même appelé le bug du 21e siècle. Parce que celui-là, il vient vraiment alimenter le besoin de performance. Et comme dans notre société, OK, on demande vraiment de plus en plus à tout le monde de performer, alors cette fausse croyance-là ne peut pas disparaître. OK, c'est comme, même si on essaie avec la logique, c'est difficile à moi vraiment de mettre la main dessus là, puis de dire, regarde, c'est elle qui est là, là. Alors, cette croyance-là, elle se résorbe pas. Les gens demeurent de plus en plus convaincus qu'il faut qu'ils performent, qu'il faut qu'ils réussissent. Et dans leur environnement, que ce soit de travail, que ce soit avec les enfants, que ce soit au niveau de l'alimentation à tous les niveaux, OK, on doit être performant.
Alors, comment vous déprogrammez les gens?
Dans le fond, la chose la plus importante, c'est de prendre conscience de la présence de cette croyance-là. C'est la base de tout. OK, c'est que les gens qui sont, par exemple, les auditeurs qui sont à la maison, OK, puis qui se disent, est-ce que, si j'ai un petit degré de perfectionnisme ou de décrochage, là, est-ce que ça se pourrait que j'aie ça dans ma tête, moi? Cette croyance-là qui me dit, je devrais être capable de tout faire et de tout réussir. Et déjà, je dis, il y a la moitié, je dis qu'à partir du moment où on a identifié que cette croyance-là est là, on a la moitié du problème de résolu. Parce que quand elle monte au niveau de la conscience, puis qu'elle demeure assez longtemps au niveau de la conscience, la logique peut intervenir. OK, puis là, je veux dire, c'est une petite technique là qui est expliquée dans le livre là, à quelques endroits. Comment, dans le fond, je veux dire, on va la déprogrammer, c'est-à-dire s'imaginer qu'elle disparaît. On la voit écrite comme dans notre tête, on la voit imprimée dans notre tête, et on la voit, on imagine...
En lisant votre livre, j'avais l'impression... C'est le retour au gros bon sens, c'est-à-dire, en quelque part, de dire, prends le temps de vivre, prends le temps de passer du temps, justement, avec des gens qui sont importants pour toi, puis fais pas un drame avec tout. C'est comme si c'était la logique, dans le fond.
La simplicité.
La simplicité, oui, oui, absolument.
Moi, j'ai toujours dit, je veux... Il y avait une phrase qui m'avait frappée dans un film avec Tom Hanks, qui... en tout cas, l'autre acteur disait, explique-moi ça comme un enfant de 5 ans. OK, pour que je comprenne, puis moi, c'est comme mon principe à quelque part. Tu sais, explique-nous ça pour qu'on comprenne. Simplifier. Puis c'est toujours la recherche que je fais depuis 20 ans, dans le fond. Ça a toujours été d'essayer d'éliminer tout ce qui était plus ou moins, il m'apparaissait plus ou moins important pour aller dans le plus simple. Et quand j'ai identifié ces trois croyances-là de l'enfance, je me suis dit, je tripais, j'avais du fun, puis j'ai dit, je vais aller sur Internet voir qu'est-ce qu'ils en disent de ces croyances-là, puis tout ça, puis là, j'ai fouillé partout. Puis on parle pas.
Avez-vous été pourchassé par les psy patentés, là, vous? Parce que là, quand vous écrivez un livre en disant qu'il dénonce un peu les méthodes traditionnelles, l'utilisation abusive de médicaments, est-ce qu'ils vous ont pris en chasse?
Pas encore.
Pas encore? Ça va peut-être venir.
Non, mais en tout cas, je veux dire, je pense que je serais capable d'argumenter parce que c'est dur des fois avec quand t'as le gros bon sens de ton côté. Tu sais, pour d'autres, de dire, gars, ça n'a pas de sens, ton allure, mais c'est parce que c'est du gros bon sens. En tout cas,
merci beaucoup, Mme Reed, d'être venue ce matin.
Ça me fait vraiment plaisir.
Louise Reed, l'auteur du livre et de plusieurs livres, il y en a 10 au total, mais le plus récent, L'anxiété, le cancer de l'âme. On s'arrête pour une pause, 9h32 minutes, et on revient nous tout de suite après avec notre tribune téléphonique par cette chaude journée du jeudi 1er septembre.